Donc il va être question de l'individu. Michel Fichon devait venir le 10 février parler de la vérité. Une mauvaise grippe, une mauvaise conjonction a fait qu'il n'a pas pu venir. Et donc c'est un autre, si on se fie à la doctrine de Leibniz, c'est un autre Michel Fichon, celui qui n'est pas venu le 10 février, qui est là, présent dans sa notion complète. Il n'y avait pas la conférence du 10 février, mais il y a, enfin espérons-le, tout porte à le croire, il y a cet exposé sur l'individu chez Leibniz. Et je vais lui passer la parole pour qu'il puisse, dans l'heure et demie dont il dispose, ou deux heures dont il dispose, exposer cette question qui a travaillé Leibniz à peu près toute sa vie, entre la dissertation sur le principe d'individuation jusqu'au texte ultime.
Merci Jean Montenot. Donc si j'ai bien compris, vous avez au programme de votre concours l'individu. C'est évidemment, comme vient de le rappeler Jean Montenot, un sujet qui est tout à fait central dans l'étude propre de la philosophie de Leibniz. Et d'autre part, Leibniz s'occupe, si on considère la généalogie de la thématique de l'individu, une place importante, centrale, dans cette histoire, reste à déterminer laquelle. Il y a indiscutablement, chez Leibniz, et de façon centrale, ce qui a pu être désigné comme une métaphysique de l'individuel. Je fais référence au titre d'un très grand livre allemand, un des plus grands livres sur Leibniz, paru en 1927 de Dietrich Mahnke, qui était un élève de Husserl, et dont le titre traduit en français est « La synthèse chez Leibniz de la mathématique universelle et de la métaphysique individuelle, la métaphysique de l'individu ». Quelle est cette métaphysique de l'individu ? Comme il faut quand même toujours avoir une thèse à défendre et l'énoncer d'emblée, la thèse que je défendrai, c'est que la métaphysique de l'individu qui occupe cette place centrale chez Leibniz exprime une position qui n'est pas individualiste, qui est assurément pré-individualiste et, comme on le verra par certains côtés, anti-individualiste. Dire ceci présuppose évidemment qu'on ait une notion pas assez identifiable de ce que l'on entend par individualisme. Je trouve cette notion dans un ouvrage déjà relativement ancien de M. Alain Renaud, paru en 1979, qui s'appelle « L'ère de l'individu, contribution à une histoire de la subjectivité ». Dans cet ouvrage, ex-collègue de Paris 4, Alain Renaud, caractérise comme individualisme la position fondée sur l'affirmation de la complète indépendance les uns par rapport aux autres, d'individus soustraits à toute subordination à une totalité social, culturel ou comme on voudra l'appeler, avec pour corollaire, par conséquent, le rejet de toute subordination hiérarchique et l'affirmation du principe d'égalité, ce qui, dans les versions plus récentes, et en particulier sur le plan de la philosophie politique, conduit à ce que M. Renaud appelle l'individualisme démocratique, qu'il caractérise aussi dans son livre comme individualisme moderne. Jusque-là, tout va bien. Monsieur Renaud, dans ce livre, qui brosse un grand panorama historique de l'histoire de la subjectivité, assigne à Leibniz, du point de vue métaphysique, le rôle de celui qui aurait posé les fondements ontologique de cet individualisme. Pas, bien sûr, ses conséquences éthiques et politiques, mais ses fondements premiers du point de vue métaphysique, en ce que, alors je reprends sommairement un certain nombre de formulations qu'on peut trouver dans le livre, en ce que s'opère, alors contre la reconstruction par Heidegger de l'histoire de la métaphysique moderne depuis Descartes, s'opérerait chez Leibniz une mutation du sujet vers l'individu, pour dire les choses très, très vite, un peu, de façon un peu simplifiée, le sujet c'est Descartes, et avec Leibniz, on passerait du sujet à l'individu, parce que on trouverait chez Leibniz l'affirmation frontale de la complète indépendance de sujet individuel ou de substance individuelle dans le vocabulaire de Leibniz, ou encore, toujours dans le vocabulaire de Leibniz, on reviendra sur ces termes tout à l'heure, de monade, d'unité, séparées les unes des autres, poursuivant chacune pour elle-même ses objectifs, ses finalités, dans un cadre que pour lequel M. Renaud utilise l'expression très forte de fragmentation du réel, de telle sorte que la liaison entre ces unités, ces sujets individuels, s'opérerait en quelque sorte après coup, par en dessus, par l'artifice divin de l'harmonie. Et finalement, je cite encore une formulation qu'on trouve dans ce livre, elle mérite au moins d'exposer ses thèses avec une parfaite clarté, chez Leibniz, l'ordre du réel serait la résultante, l'ordre du réel, ce qui en fait la liaison et l'unité, serait la résultante des intentions et des activités individuelles d'unité, de monade, poursuivant chacune pour elle-même, séparément des autres, l'accomplissement de leur être. Alors, je n'ai pas à discuter la caractérisation qu'Alain Renaud donne de l'individualisme. Ce que je soutiens, c'est que la métaphysique de l'individu chez Leibniz n'a strictement rien à voir avec un individualisme de ce genre et qu'à certains égards, elle y est même frontalement opposée, ce qu'il faut maintenant examiner de plus près. Alors, je voudrais faire d'abord quelques remarques préliminaires sur la terminologie et les concepts qui sont associés à cette terminologie, en donnant aussi quelques indications plus générales sur le cadre dans lequel j'ai pour ma part pris l'habitude d'aborder l'étude de la philosophie de Leibniz. Jean Montenot vient de le rappeler, premier texte philosophique connu de Leibniz, en 1663, c'est une dissertation d'étudiant pour l'obtention d'un grade universitaire sur le principe d'individuation. Mais Leibniz étant né en 1746, mort en 1716, si on laisse de côté cette dissertation d'étudiant, l'activité intellectuelle de Leibniz s'est déployée pendant 50 ans, de 1766 à 1716. Pour des tas de raisons qui seraient tout à fait superflues d'exposer ce soir, on considère aujourd'hui généralement dans les études leibniziennes que cette intense activité intellectuelle qui a occupé Leibniz pendant 50 ans dans les domaines les plus variés, en commençant par le droit, puis la métaphysique, la théologie, puis les mathématiques, la logique, la politique, l'étude des langues et tous les domaines du savoir de l'époque, cette immense activité intellectuelle, nous avons tendance aujourd'hui, dans le petit milieu des gens qui s'occupent de ça, à l'aborder dans sa séquence chronologique, dans ses évolutions et dans ses transformations. Il est assez habituel, dans les commentaires les plus généraux, de confondre deux termes que Leibniz n'a jamais utilisés simultanément, mais qu'il a utilisés successivement, qui sont ceux d'abord de substance individuelle, puis ceux, c'est un des termes les plus connus du lexique leibnizien, de monade, monade ne signifiant rien d'autre que, non pas substance individuelle, mais substance simple, sujet simple, c'est-à-dire sans partie, une unité indivisible. Leibniz dit monas, le mot monas est un mot grec qui signifie tout simplement unité. Donc une monade, c'est une unité, mais ce n'est pas une unité mathématique idéale. D'ailleurs, l'unité mathématique, l'unité arithmétique, elle peut être divisée en fractions. C'est une unité réelle. On retrouvera ça tout à l'heure. Et en caractérisant les choses. Mais quand on utilise ces deux termes, substance individuelle et monade, il faut, qu'on trouve évidemment dans le vocabulaire de Leibniz, il faut les repérer en fonction des contextes dans lesquels ils apparaissent, contextes dans lesquels aussi ils correspondent à des problèmes différents dont ils sont les instruments de solution pour des problèmes. Ils sont des instruments de solution pour des problèmes. Substance individuelle est, on peut maintenant aujourd'hui très facilement examiner les textes philosophiques du point de vue des fréquences du vocabulaire. Substance individuelle est un texte qui est très présent, qui pullule dans les textes de Leibniz autour de 1685, date du discours de métaphysique. Et on y reviendra donc dans un instant, pas seulement dans ce texte, dans une très grande correspondance qui se développe à partir des thèses de ce texte, qui est la correspondance de Leibniz avec le théologien janséniste Antoine Arnauld, et puis dans beaucoup d'autres textes dont certains ne sont connus d'ailleurs que depuis les avancées les plus récentes de l'édition des textes de Leibniz, parce qu'à ce jour, il n'y a pas encore d'édition complète de toutes les œuvres de Leibniz, au contraire de ce qu'on a pour Spinoza, pour Descartes, pour Kant. C'est encore un chantier et un work in progress. Bon. Donc, autour de 1685, grande concentration autour de la substance individuelle, on verra pourquoi dans un instant. Et puis, après 1690, le lexique de l'individu et de l'individuel s'estompe, sauf dans un cas, dans un texte aussi, un des textes les plus célèbres de Leibniz, les nouveaux essais sur l'entendement humain, que Leibniz a écrit en 1703-1704, et où le vocabulaire de l'individualité est très présent pour une raison très simple, c'est que les nouveaux essais sur l'entendement humain sont une sorte de commentaire continu de l'ouvrage du philosophe anglais John Locke, l'essai sur l'entendement humain, dont Leibniz suit paragraphe par paragraphe le texte en superposant son propre texte à celui de Locke, et comme Locke fait un usage abondant de la thématique de l'individuel et du vocabulaire de l'individualité, ça se transpose naturellement dans le texte de Leibniz. Et puis, dans les textes suivants, jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière période, la thématique et le lexique de l'individuel s'estompent jusque à ces deux textes finaux importants, je ne considérerai qu'un seul ce soir, rédigés en 1714, qui sont d'une part les principes de la nature et de la grâce fondés en raison, et d'autre part le texte auquel on donne le titre de monadologie. Je dis auquel on donne le titre de monadologie parce que le titre n'est pas de Leibniz. Leibniz n'a jamais utilisé le mot de monadologie, même si ensuite il est devenu, quand on parle de Leibniz, on dit Leibniz monadologie. Mais Leibniz n'a jamais utilisé ce mot qui a été inventé en 1720 par le traducteur allemand de ce qui n'était connu que sous la forme d'un manuscrit qui circulait. Je précise que tous ces textes sont des textes que Leibniz n'a pas publiés de son vivant. Le discours métaphysique a été publié au XIXe siècle, la correspondance avec Arnauld aussi. Au XVIIIe siècle, on a eu le texte allemand de la monadologie, puis un texte latin, mais l'original français n'est paru aussi qu'au XIXe siècle, et les nouveaux essais sur l'entendement humain ne sont parus qu'en 1765. Bon, voilà le cadre général. Donc, venons tout de suite au cœur du sujet, en ce qui concerne donc la constitution de la substance individuelle à la période où elle apparaît et principalement dans le texte où elle joue un rôle majeur, qui est un texte que vous pouvez facilement vous procurer, car il en existe, outre cet édit aussi, beaucoup d'autres, et qui est le discours de métaphysique, et j'aborderai parfois aussi quelques-uns des prolongements qu'on trouve dans la correspondance avec Arnaud. Alors, quel est le contexte et l'objet de ce texte? Là aussi, d'ailleurs, le titre n'est pas de Leibniz, mais il y a de bonnes raisons de l'avoir utilisé, qu'on appelle le discours de métaphysique. Leibniz en parle de la façon suivante dans une lettre à un correspondant, peu importe les détails, où il écrit « J'ai fait dernièrement, étant à un endroit où quelques jours durant je n'avais rien à faire, un petit discours de métaphysique. » Quand on n'a rien à faire, on fait un petit discours de métaphysique. Et Leibniz ajoute « Les questions de la grâce, du concours de Dieu avec les créatures, de la nature des miracles, de la cause du péché et de l'origine du mal, des idées, etc., y sont touchées d'une manière qui semble donner de nouvelles ouvertures propres à éclaircir des difficultés très grandes. » Ce texte nous dit quelle est de quoi Leibniz s'est vraiment occupé quand, n'ayant rien de mieux à faire, il a écrit un petit discours de métaphysique. Quelles sont ces difficultés? Si on laisse de côté la dernière, les idées, les autres difficultés mentionnées, grâce, concours de Dieu, nature des miracles, cause du péché, origine du mal, ce sont les questions qui, à l'époque où Leibniz s'écrit, étaient des questions centrales dans les controverses religieuses, notamment dans les controverses dans lesquelles se disputaient et s'opposaient, non seulement, après la réforme, non seulement les catholiques et les différentes variétés de réformés ou de protestants, mais aussi les catholiques entre eux, pensez au provincial de Pascal, et aussi calvinistes et luthériens, et les luthériens entre eux n'étaient pas tous d'accord non plus, c'était les questions sur lesquelles s'échangeaient d'innombrables disputes, arguments, contre-arguments, et sur lesquelles se divisaient les différents fragments éclatés de ce qu'avait été, jusqu'à la réforme, l'unité de l'Église universelle. Et Leibniz a eu toute sa vie un grand projet, dans lequel il a évidemment complètement échoué, mais il a eu un grand projet qui était celui de la réconciliation religieuse, ce qui s'appelle dans sa terminologie, la réunion des Églises, pour reconstituer l'unité de la chrétienté, et il considérait que le moyen d'y parvenir, c'est sans doute pour ça qu'il a échoué, que le moyen d'y parvenir était de résoudre ces problèmes, non pas en se plongeant dans la dispute théologique elle-même, mais de résoudre ces problèmes à un niveau plus fondamental, au niveau d'une élaboration métaphysique qui soit en quelque sorte neutre par rapport aux controverses religieuses et aux divergences sur lesquelles elles se focalisent. Et le discours de métaphysique traite de métaphysique précisément pour fournir les instruments d'une possible solution sur laquelle on pourrait se mettre d'accord pour, etc. Alors, cette conséquence n'a jamais eu lieu, mais ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre, par exemple, ce que Leibniz dit aux articles 31 et 32 du discours de métaphysique, l'article 32 ayant pour titre « Utilité de ses principes en matière de piété et de religion ». C'est bien montré que les thèses métaphysiques qu'on a posées là doivent avoir une application dans ce type de discussion. Encore une fois, ça n'a pas marché, mais c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer aussi la manière dont Leibniz aborde l'élaboration donc métaphysique de la notion d'individu, d'individualité ou de substance individuelle. Ça explique aussi pourquoi, dans ce texte-là, comme dans tous les fragments que nous avons de la même époque, la notion de substance individuelle est toujours exemplifiée par des noms propres qui sont les noms, on va dire, d'agents historiques. C'est César, Alexandre le Grand, Pierre, c'est-à-dire Saint-Pierre, donc là, dans l'histoire religieuse, Judas, ou même Adam, le premier homme, à l'occasion, on verra, Arnaud lui-même, dans la correspondance avec Arnaud, ou Leibniz lui-même, dans se mettant en scène dans la correspondance avec Arnaud. Donc, les référents de la substance individuelle, ce sont ce que Leibniz appelle aussi des personnes, ou il emploie aussi le terme de personnages, considérés comme les agents historiques, et ça peut être aussi n'importe qui, un personnage quelconque, tout le monde a une histoire, mais ce sont les agents historiques humains de destinée singulière, dont évidemment celles qui nous servent le plus familièrement d'exemple sont celles des personnages célèbres de l'histoire, César, Alexandre, etc., etc. C'est un point très important pour comprendre ce dont il est question dans l'élaboration de la substance individuelle dans le discours métaphysique. La question est posée à partir de l'article 8 du discours de métaphysique. Les articles précédents ont mis en place, et vous allez comprendre pourquoi c'est important justement par rapport à l'interprétation non individualiste de l'individu, les paragraphes précédents ont mis en place comme préliminaire la notion d'abord de Dieu comme être absolument parfait qui agit en toute chose de la façon la plus parfaite, d'où résulte l'ordre général, c'est le terme même de Leibniz, qui régit le monde et qui le régit comme une suite de la perfection divine, comme l'ordre le plus uni et le plus parfait qui se puisse concevoir. Et c'est sur la base de cette notion préalable de l'ordre général, comme dépendant de Dieu, que à l'article 8, Leibniz nous dit il faut maintenant distinguer les actions de Dieu et celles des créatures, et pour cela, il faut expliquer en quoi consiste la notion d'une substance individuelle. Donc la question de la substance individuelle est appelée en contrepoint de l'ordre général pour savoir en quel sens les créatures agissent. Est-ce que c'est Dieu qui fait tout, et les créatures n'ont aucune capacité d'initiative propre dans l'ordre du monde, ou est-ce que les créatures ont une activité qui leur est propre et qu'elles développent d'elles-mêmes? C'est le point qu'il faut résoudre maintenant, et dont on voit évidemment l'importance qu'il a par rapport à l'horizon des questions sur la liberté de l'homme, la grâce de Dieu, le concours divin, etc., les questions des controverses théologiques et religieuses de l'époque. Donc, mais là, maintenant, on est dans la métaphysique proprement dite. Là, il n'y a plus de... on essaye de se donner de façon neutre un outil métaphysique pour traiter cette question. Alors, suivons le texte. Leibniz argumente d'une façon dont le fil est très simple à reconstituer, le texte est très clair. On commencera par dire, quand on parle d'action, à quoi se réfère-t-on? Là, il ne s'embarrasse pas de grandes complications, il reprend une formule scolastique. Il reprend une formule qu'on trouve par exemple chez saint Thomas, actiones sunt suppositorum. Les actions sont les actions des, si on traduit littéralement, des suppos, suppositum. Qu'est-ce que c'est qu'un suppo, dans la terminologie de l'école? Un suppo, c'est une substance individuelle. Une substance. Donc les actions sont les actions des suppos. Donc, pour savoir si les créatures agissent, il faut savoir ce que c'est qu'un suppo, c'est-à-dire ce qu'est une substance individuelle. Il est nécessaire d'expliquer ce qu'est une telle substance. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on entend par substance? Là, Leibniz ne s'embarrasse même pas de faire une référence explicite, une citation, parce que ce sont pour lui des lieux communs dans son héritage philosophique, mais il renvoie à Aristote, le traité des catégories, section 2. Ce qu'on appelle substance individuelle, c'est le sujet qui ne s'attribue à rien d'autre. C'est le sujet qui ne peut pas lui-même, dans une proposition attributive de la forme sujet est prédicat, l'homme est un animal, S et P, c'est le sujet qui ne peut plus lui-même intervenir comme prédicat d'autre chose. Et Aristote, encore une fois, n'est pas explicitement mentionné, il le sera un peu plus bas, mais Leibniz n'en a pas besoin, c'est ce que Aristote appelle, dans cette section du traité des catégories, alors, on va laisser les problèmes de traduction du grec, pourquoi ousia ça devient substance, parce que ça nous dériverait du sujet, c'est la substance première, c'est ce qui n'est ni dans un autre sujet, ni dit d'un autre sujet. Et Aristote dit immédiatement, c'est toujours un individu. C'est pas l'homme, c'est Socrate, c'est Aristote, c'est celui-ci, bien déterminé et unique. C'est ce que Aristote appelle substance première, et dont il dit, c'est un individu. Et Leibniz ajoute, cette définition n'est que nominale, car elle repose sur la notion de l'attribution et donc de la constitution du jugement sous la forme prédicative. Tel sujet possède tel prédicat. L'homme est un animal, mais l'homme, c'est pas une substance première, mais Socrate est un homme, là, Socrate est une substance première, parce qu'on ne peut pas dire d'autre chose que c'est Socrate, comme si Socrate était un prédicat ou un attribut quelconque. Mais qu'est-ce que c'est qu'être attribué, véritablement? Qu'est-ce que c'est que dire quelque chose de quelque chose en énonçant une proposition vraie, un jugement vrai. Et c'est là on a le maillon essentiel qui va nous conduire à la construction de la notion de substance individuelle, et après on va en voir tous les paradoxes qui en résultent. Être attribué véritablement, pour qu'on puisse dire que l'attribution est véritable, la condition à remplir, c'est que le prédicat soit dans le sujet. Prédicat soit dans le sujet. Après, le sujet n'est plus dans autre chose, mais pour qu'un jugement soit vrai, il faut, pour que l'homme est un animal soit vrai, il faut que animal soit dans homme. Plus exactement, il parle comme ça dans, et donc là aussi, il y a un adage latin qui intervient, prédicatum in est subjecto. Le prédicat est dans le sujet. On comprend tout de suite que ce dont il s'agit, quand on dit il faut que le prédicat soit dans le sujet, ça veut dire, et d'autres textes de Leibniz sont parfaitement explicites là-dessus, c'est le concept ou la notion du prédicat qui est contenu dans le concept ou la notion du sujet. C'est une relation entre concepts, entre notions, entre entités pensées. Parce que si on considère du point de vue des individus existants, c'est l'ensemble des hommes qui est dans l'ensemble des animaux. L'inclusion se fait dans ce sens-là. C'est la classe des hommes qui est une partie de la classe des animaux qui est plus vaste. Si on dit l'animal est dans l'homme, animal est dans homme, à ce moment-là, ça veut dire le concept d'homme contient dans ce que les logiciens de l'époque, par exemple la logique de Port-Royal, appellent la compréhension, le concept d'homme contient le concept d'animal. Et donc les hommes sont contenus dans les animaux. Mais ce qui intéresse Leibniz, c'est le rapport dans lequel c'est le prédicat qui est dans le sujet, donc c'est, on est dans un rapport entre notions. Dans un, on va voir tout de suite la, la conséquence qui en résulte. Un rapport entre notions ou entre concepts, c'est pas un rapport entre choses, ou entre individus, bien entendu, ou entre classes d'individus. Et donc, puisque la substance est sujet dernier qui ne peut pas être prédicat d'autre chose, puisque le prédicat est dans le sujet, ou traduit plus exactement, la notion du prédicat est dans la notion du sujet, ça veut dire que pour chaque sujet qui ne peut pas être dit d'un autre, qui est sujet dernier, donc substance individuelle, pour chaque sujet, il doit exister une notion, ou un concept, les deux termes sont équivalents pour Leibniz, il doit exister une notion ou un concept qui contient tous les prédicats de ce seul et même sujet. Qui contient tout ce qui peut être dit véridiquement de ce sujet. Dans le texte du discours de métaphysique, Leibniz dit « notion si accomplie ». Notion si accomplie qu'elle soit suffisante à comprendre et à en faire déduire tous les prédicats du sujet à qui cette notion est attribuée. Généralement, dans la plupart des autres textes, il dit « notion complète » et donc dans le commentaire, on utilise généralement cette expression de « notion complète ». Une notion est complète quand elle contient tout, exhaustivement, tous les prédicats, c'est-à-dire tout ce qui peut être dit d'un même sujet. Et on voit tout de suite que la notion de prédicat, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'identification des substances individuelles à des agents historiques, la notion de prédicat, elle recouvre, et je vais rentrer dans le détail du texte, mais dans le discours métaphysique, c'est facile à vérifier, elle recouvre la notion d'événement. Tous les événements dont un même sujet est l'acteur ou auquel il est mêlé peuvent être considérés, logiquement parlant, comme ses prédicats, et ça rentre dans la notion complète de ce sujet. Et donc, par exemple, la notion d'Alexandre contient qu'il vaincrait Darius et Porus. Elle contient s'il est mort d'une mort naturelle ou s'il a été empoisonné. Et elle contient donc tous les événements de la vie d'Alexandre le Grand. Dans d'autres textes, c'est César, le franchissement du Rubicon, la fin de la République romaine et l'instauration de l'Empire, etc. Tout ça est contenu dans la notion de César. Dans tous les textes de l'époque, on va regarder maintenant les conséquences et les corollaires de cette doctrine étrange, dans tous les textes de l'époque, Leibniz pose comme équivalent être une substance individuelle, avoir une notion complète, c'est-à-dire une notion qui enferme, un concept qui enferme tout ce qui peut être dit d'un même sujet. Il y a une parfaite équivalence entre X est une substance individuelle et il y a une notion logiquement complète de X. Il y a une notion de X qui contient tous les prédicats de X exhaustivement et qui est saturée de telle sorte qu'elle ne puisse plus à son tour être attribuée à un autre sujet parce qu'à ce moment-là, il n'en serait qu'une partie. Donc il y aurait dans le sujet quelque chose qui lui échappe. Et comme la notion est complète, rien du sujet ne lui échappe. Donc elle coïncide absolument avec son sujet, qui est, de la sorte, une substance individuelle, au sens qu'Aristote avait posé sous la dénomination de substance première. Et ceci constitue, dans d'autres textes, pas dans l'histoire métaphysique, c'est en cela que consiste le principe d'individuation. Le principe d'individuation consiste dans la complétude logique de la notion de l'individu, si c'est un individu. Le point Le point qui est essentiel ici, sans entrer dans des discussions qui ont partagé les interprètes sur les rapports entre la métaphysique et la logique chez Leibniz. Le point qui est essentiel ici, c'est cette thèse tout à fait singulière et forte, que il y a donc pour Leibniz des concepts individuels, des concepts qui ne s'appliquent qu'à une seule, qu'à une chose unique, qu'à un objet unique. Qu'il y a donc une parfaite homogénéité entre l'individu et le concept. Ça va pas de soi du tout. Par exemple, je vais ne prendre qu'une référence historique. Chez Kant, un concept, par définition, est général. Un concept, par définition, est général et tombe sous ce concept ou peuvent être identifiés par ce concept une pluralité indéterminée d'objets. Et si restreint que soit un concept quand son extension, on peut toujours le diviser en concept inférieur sans jamais parvenir, dans la terminologie classique, à une espèce, un concept spécifique qui serait dernier et qu'on ne pourrait plus spécifier. Chez Kant, les individus sont renvoyés en dehors de la sphère du concept comme objet de l'intuition qui est la représentation singulière, mais Kant distingue et oppose intuition et concept par précisément ces deux caractères. L'intuition est singulière, le concept est toujours général. Pour Leibniz, il y a des concepts singuliers, il y a des concepts individuels. Et donc, on peut parler de logicisation du réel à partir, justement, où il y a à la fois chez Leibniz la thèse ne sont véritablement réels que les individus. Tout le reste, c'est des abstractions. Le monde n'est peuplé que d'individus. Et en même temps, il y a des concepts d'individus. Alors, voyons maintenant les corollaires et les conséquences de cette logicisation du réel et de cette adéquation du concept à l'individuel, telle que Leibniz l'a mise en place par le cheminement que je viens de reconstituer. Première conséquence, c'est le début de l'article 9, hein, Leibniz lui-même dit, il s'ensuit de cela plusieurs paradoxes considérables. Paradoxe considérable, le premier paradoxe considérable, il n'est pas ici, enfin il est énoncé, il ne trouve pas le nom qu'il recevra ultérieurement chez Leibniz, c'est un principe fondamental de la philosophie de Leibniz, pour lequel il forgera ultérieurement l'appellation de principe des indiscernables. Ça veut dire, deux substances ne peuvent jamais se ressembler, être entièrement semblables, se ressembler entièrement, et ne se différencier que numériquement. Il ne peut pas y avoir un Alexandre et un numéro 1 et un Alexandre numéro 2. Deux substances ne peuvent pas relever d'une différence seulement numérique. Elles doivent toujours se différencier par des caractères internes de leur concept, c'est-à-dire par tel ou tel de leurs prédicats. Remarquons en passant, mais sans y insister, que dans les nouveaux essais en 1703-1704, Leibniz, qui ne parle plus du tout de la construction logique de la notion complète, identifie à ce moment-là le principe des indiscernables au principe d'individuation. Il répond à son interlocuteur, au philosophe anglais Locke, que deux choses réellement distinctes ne peuvent pas être différenciées seulement par le lieu, une est ici et l'autre là, ou par le temps, une était et l'autre est maintenant. L'espace et le temps ne fournissent que des relations externes. Deux choses réellement différentes doivent se différencier par une différence interne. Et une différence interne, ça veut dire une propriété ou un événement qu'on peut traiter comme un prédicat. Et c'est ça le principe d'individuation, pardon, Leibniz l'énonce ainsi dans les nouveaux essais, le principe d'individuation revient dans les individus au principe de distinction. Si deux individus étaient parfaitement semblables et égaux, et en un mot, indistinguables par eux-mêmes, il n'y aurait point de principe d'individuation, et même, j'ose dire, qu'il n'y aurait point de distinction individuelle ou de différents individus à cette condition. Et ceci vaut, y compris pour, pas seulement pour les substances, mais ça vaut aussi pour les objets d'observation empirique. C'est un exemple, c'est l'exemple fameux que Leibniz prend dans, juste après le passage que je viens de citer de Nouveaux Essais, une conversation dans les jardins de la cour de Hanovre, et un gentilhomme dit « Mais moi, je vais vous trouver deux feuilles d'arbres qui soient absolument identiques et indiscernables. » Et puis, bien entendu, il revient bredouille, parce que on arrive toujours à avoir des toutes petites différences qui différencieront les deux feuilles d'arbres. Ça vaut aussi, sur le plan descriptif ou phénoménal, pour les objets empiriques, c'est le principe des indiscernables est absolument universel. Donc, deux choses se distinguent toujours par des marques internes. Et donc, en termes logiques, l'individu est espèce dernière. L'individu est un concept spécifique qui ne peut pas être divisé en espèce inférieure, puisque si deux choses avaient la même notion complète, elles ne seraient pas deux, elles seraient une seule. Et donc, cette notion, qui rentre bien dans la hiérarchie intellectuelle, dans la hiérarchie d'entendement des genres et des espèces, cette notion est une espèce dernière. Troisième conséquence ou troisième paradoxe. Non seulement la notion complète d'un individu contient toute l'histoire, il y a un texte où Leibniz utilise expressément le terme d'histoire, contient toute l'histoire de l'individu. Mais en raison de la liaison des choses, de l'ordre général, en même temps que l'histoire de cet individu, elle contient tout l'univers dont cet individu est un élément. Elle contient tous les états passés, présents et futurs de l'univers. Par exemple, pour Alexandre, et avec transposition, évidemment, la logicisation du réel fait que ce qu'on peut dire de la notion complète, ça s'applique évidemment à l'individu dont c'est le concept. Donc, quand on considère bien la connexion des choses, on peut dire qu'il y a de tout temps dans l'âme d'Alexandre des restes de ce qui lui est arrivé et les marques de tout ce qui lui arrivera, et même des traces de tout ce qui se passe dans l'univers. Chaque notion individuelle d'une substance singulière contient tous les états passés, présents, futurs de l'univers. Et en fait, ce que Leibniz dit aussitôt après, comme un monde à part, puisqu'elle contient tout, puisque le monde est en elle. Elle est à elle-même, en un certain sens, mais on va voir comment ça se corrige aussitôt, elle est en un certain sens son propre monde, et elle est autosuffisante. En ce sens-là, en effet, il y a bien indépendance. Il y a bien indépendance, puisque chaque substance étant un monde, tout ce qui se produit en elle se produit par conséquence de ce que sa notion contient, sans qu'il soit besoin que d'autres choses agissent sur elle, qu'il y ait des interactions réelles. Et cette spontanéité d'une substance qui est à elle-même son propre monde, puisqu'elle contient l'univers entier et qu'elle est un monde à part, permet en effet de parler d'indépendance, incontestablement. À une nuance près, indépendance, sauf à l'égard de Dieu. Car toutes les substances sont produites par Dieu en tant que créature. C'est pourquoi, un petit peu plus loin, dans le discours de métaphysique, Leibniz, à la fin de l'article 32, cite une parole attribuée à Sainte Thérèse d'Avila, disant « Il faut faire comme si mon âme était seule au monde avec Dieu. » Seule au monde, mais avec Dieu. Et Leibniz dit « Oui, jusqu'à un certain point, c'est vrai. dans la mesure où chaque substance individuelle contient le monde et est à elle-même son propre monde, elle peut se considérer comme s'il n'y avait que Dieu et elle au monde. Mais ceci n'est qu'un moment abstrait qu'on ne peut pas séparer de l'enchaînement de toutes les conséquences, et c'est toujours formulé chez Leibniz sur le mode du « comme si », c'est-à-dire sur le mode d'une fiction. Puisque, en réalité, et on va revenir là-dessus, si chaque individu est à lui-même son propre monde et constitue un monde à part, indépendant des autres individus, c'est, le texte que j'ai cité tout à l'heure le disait bien, en raison de la connexion des choses. En raison de la connexion des choses. Donc, quatrième conséquence, quatrième paradoxe. L'individuation fait qu'un individu contient l'infini. La notion complète d'une substance individuelle contient une infinité de prédicats. C'est non seulement l'infinité des prédicats de la biographie d'un homme, mais c'est l'infinité de tout ce qui peut se passer dans un univers lui-même infini. Conséquence. Alors, conséquence qui est formulée très fortement dans un texte des Nouveaux Essais. Conséquence. Notre esprit fini, ne peut pas connaître les individus comme individus. Notre esprit fini ne peut pas maîtriser l'infini. Je cite les Nouveaux Essais, livre 3, chapitre 3, paragraphe 6. « Quelque paradoxe que cela paraisse, il est impossible à nous d'avoir la connaissance des individus et de trouver le moyen de déterminer exactement l'individualité d'aucune chose, à moins de la garder elle-même. » C'est-à-dire, pouvons désigner l'individu par l'expérience. C'est-à-dire, ceci est un individu. Mais si on nous dit, oui, ben d'accord, développer par concept ce qui fait que c'est un individu, nous ne le pouvons pas, puisque nous ne pourrons jamais qu'énumérer un nombre fini de caractères de cet individu, et non pas développer tout ce qui rentre dans sa notion complète. Car, je poursuis le texte de Leibniz, ce qu'il y a de plus considérable est que l'individualité enveloppe l'infini, et il n'y a que celui qui est capable de le comprendre qui puisse avoir la connaissance du principe d'individuation de telle et telle chose, ce qui vient de l'influence de toutes les choses de l'univers les unes sur les autres. Donc on retrouve l'influence des choses de l'univers les unes sur les autres après l'avoir provisoirement mise entre parenthèses. Donc, alors, le paradoxe est assez considérable, puisque ça revient à dire « Nous savons que s'il y a individu, il y a une notion complète. » Mais ce savoir est lui-même un savoir général. Car d'une chose singulière déterminée, nous ne pouvons jamais, nous, par notre intelligence ou par nos opérations cognitives, nous ne pouvons jamais en formuler complètement la notion complète. Et donc, tout de suite le corollaire de ça, qui est-ce qui connaît les notions complètes des individus, des notions individuelles complètes, comme les appellent, bien entendu, c'est Dieu. Le site des notions complètes, c'est la science divine, c'est l'entendement divin. Et je reprends maintenant la fin du paragraphe 8 du discours de métaphysique, où ceci est exprimé de façon parfaitement explicite. La qualité de roi qui appartient à Alexandre le Grand, faisant abstraction du sujet, n'est pas assez déterminée à un individu. Bien entendu, il y a des tas d'individus dont on peut dire qu'ils ont été, qu'ils sont rois. Et n'enferme point les autres qualités du même sujet. Au lieu que Dieu voyant la notion individuelle d'Alexandre, y voit en même temps le fondement et la raison de tous les prédicats qui se peuvent dire de lui véritablement, ce que nous ne pouvons savoir que par l'histoire. Mais l'histoire ne nous fournit jamais que des récits partiels qui énumèrent un certain nombre, même si c'est une histoire très détaillée, aussi compliquée qu'on voudra, ça reste toujours un discours fini. Ça reste toujours une suite de phrases finies qui va nous raconter la vie d'Alexandre. Et cette suite de phrases finies, elle ne rejoindra jamais la notion complète d'Alexandre, notion qui se trouve en Dieu et dont seul Dieu a la maîtrise. Et ce point conduit au à la conséquence la plus importante quant à l'interprétation de ce que signifie cette formulation du principe d'individuation. Parce que, donc nous avons déjà repéré, même si chaque substance individuelle est un monde à part, c'est un monde à part qui est en un sens indépendant des autres substances individuelles, puisque chaque substance individuelle est autosuffisante, en ce sens-là, sauf qu'elle est quand même dépendante de Dieu. Et la dépendance à l'égard de Dieu va renforcer la liaison de chaque substance individuelle à toutes les autres, dans ce que Leibniz appelle, à l'article 14 du discours de métaphysique, un monde public à tous. Comment cela se fait-il ? Cela se fait, alors évidemment, j'espère avoir le temps tout à l'heure de regarder un épisode assez amusant de la correspondance avec Arnaud sur ce point. Leibniz est un philosophe qui considère que, certes, notre esprit est fini, c'est bien pourquoi nous ne pouvons jamais connaître complètement l'individualité d'aucune chose, puisque l'individu enveloppe l'infini, mais il est légitime à notre entendement ou à notre raison, en ce que, d'une certaine manière, c'est presque un, elle est un fragment ou une émanation de l'entendement divin ou de la raison divine, il nous est légitime, philosophiquement parlant, de raisonner au point de vue de Dieu, d'argumenter au point de vue, et d'argumenter au point de vue de la science divine, c'est-à-dire la science que Dieu a de toutes les choses, l'omniscience, la science totale que Dieu a de toutes choses existantes ou même simplement possibles. Ça, c'est un point important pour Leibniz qui date d'une certaine manière sa métaphysique. Comment concevoir cette dépendance ? Je cite l'article 14 du discours de métaphysique. À cet article 14, Leibniz dit, après avoir vu en quoi consiste la nature de la substance, il faut maintenant tâcher d'expliquer la dépendance que les unes ont des autres. Donc, l'interdépendance des substances individuelles entre elles. C'est bien le thème de la liaison des substances qui intervient et non plus simplement leur indépendance considérée in abstracto. Et voici ce qu'écrit Leibniz. Dieu, tournant pour ainsi dire de tous côtés et de toutes les façons le système général des phénomènes qu'il trouve bon de produire pour manifester sa gloire. Les phénomènes, c'est l'ensemble du monde visible, selon l'acception la plus lointainement étymologique du terme. C'est tout ce qui apparaît. Dieu le produit pour manifester sa gloire. Ça vient de Malebranche, mais bon, peu importe. Et regardant toutes les faces du monde, le monde, l'unique monde, de toutes les manières possibles, puisqu'il n'y a point de rapport qui échappe à son omniscience, le résultat de chaque vue de l'univers, comme regardé d'un certain endroit, est une substance qui exprime l'univers conformément à cette vue, si Dieu trouve bon de rendre sa pensée effective et de produire cette substance. Chaque substance est produite par Dieu comme la réalisation, le passage à l'effectivité d'une vue que Dieu prend sur l'ensemble des phénomènes qui forment le monde qu'il lui plaît de créer. Et chaque substance exprime donc ce même univers. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans un long commentaire sur le terme « exprime » et sur la notion d'expression qui est liée. Pour faciliter les choses, on va admettre que expression équivaut pour Leibniz à une relation de correspondance perceptive entre la multitude des choses et l'unité de la substance individuelle qui se les représente. Car la nature d'une substance individuelle, pour Leibniz, c'est de représenter l'univers. Elle est, et on retrouvera ça si on a le temps avec les monades, elle est essentiellement un sujet percevant, mais la notion de perception ayant une extension tout à fait universelle, puisque, au fond, quand on dit que chaque substance individuelle exprime tout l'univers, la plupart du temps, cette expression ou cette perception ne parvient pas à la représentation explicite, ou à ce que nous appellerions la représentation consciente. Ça reste pris dans, on le reverra tout à l'heure, dans une immense confusion. Donc, dépendance, et c'est précisément de cela que va résulter la dépendance des substances individuelles mutuellement, les unes par rapport aux autres, parce qu'elles sont des vues du même univers que Dieu produit simultanément pour multiplier en quelque sorte le même univers par toutes les expressions qu'en donnent les différentes substances. Dans un monde que Leibniz appelle, toujours à l'article 14 du discours de métaphysique, un monde public à tous, public à toutes les substances. Donc chacune est un monde à part, mais elles sont en même temps dans un monde commun qui est public à toutes. Précisément parce que elles sont autant de particularisation de cette représentation globale que Dieu se donne de l'ensemble des phénomènes qu'il produit pour manifester sa gloire. Hélas, on arrive au point essentiel, c'est que la thèse fondamentale de Leibniz, encore une fois, quand on s'autorise à déterminer les choses, au fond, comme si on était Dieu, ou en se plaçant au point de vue divin, la thèse de Leibniz, c'est que l'acte créateur de Dieu, sur quoi porte-t-il? Quel est son objet? C'est un monde. C'est pas les individus. Mais dans le monde, il y a que des individus. Oui. Mais l'objet propre de la création divine, c'est pas les individus. C'est le monde. Et seulement à titre de conséquence, les individus qui s'y trouve, la perfection de Dieu, voulant qu'il crée le monde qui est le plus parfait possible, le meilleur, fameuse thématique du meilleur des mondes possibles, et c'est ce principe du meilleur qui est un principe d'intégration, qui est un principe qui porte sur la totalité, et pas sur telle ou telle partie, c'est ce principe du meilleur qui détermine Dieu. Alors là, je prends un texte qui se trouve dans une autre édition, peu importe, un texte qui est d'ailleurs écrit en latin, mais que je traduis, et qui me paraît très caractéristique pour exposer ce point du raisonnement. Dieu n'établit rien de la moindre chose de l'univers avant la considération de la série totale des possibles. Pas seulement la série totale des existants, mais la série totale des possibles dans laquelle on va choisir la meilleure combinaison, afin de constituer tel univers plutôt que tel autre. C'est pourquoi ce n'est pas l'homme qui est l'objet du décret divin, mais la série totale des possibles faisant cet univers, qui prie simultanément avec tous ses états passés, présents et futurs. Et ceci posé, les décrets particuliers de Dieu de produire les choses singulières en sont ensuite les conséquences. Donc, la création des individus est une conséquence du choix de l'ensemble. Dieu ne crée pas des individus en les ajoutant les uns aux autres, il crée une totalité qui se trouve contenir ces individus et pas d'autres. Dans une lettre à Arnaud qui poursuit une discussion issue du discours de métaphysique, Leibniz écrit, alors là c'est l'exemple de substance individuelle, c'est Adam, et à la grande stupéfaction d'Arnaud, Leibniz a soutenu, mais dans la notion, dans la notion individuelle d'Adam, il y a toute la suite de l'univers, et y compris, donc entre autres, toute la suite de l'histoire humaine résultant d'Adam et du péché d'Adam est contenue dans la notion individuelle du premier homme. Et, je cite maintenant Leibniz, « Tant la résolution que Dieu prend à l'égard d'Adam que celle qu'il prend à l'égard des autres choses particulières est une suite de la résolution qu'il prend à l'égard de tout l'univers et des principaux desseins qui en déterminent la notion primitive et en établissant cet ordre général et inviolable auquel tout est conforme. » Donc il y a une notion primitive du monde qui contient tout, et l'ordre inviolable du monde, l'ordre général inviolable du monde, et les individus sont des conséquences. Les notions individuelles des substances singulières sont impliquées à titre de conséquences dans cette notion primitive du monde. Et dans la théodicée, ce sera exprimé de façon encore plus simple et plus claire, en 1710, paragraphe 206, « Dieu n'a aucune volonté sur les événements individuels. » Dieu n'a aucune volonté sur les événements individuels. « Qui ne soit une conséquence d'une vérité ou d'une volonté générale, Dieu n'a jamais de volonté particulière primitive. » Et au paragraphe 241 de la Théodicée, « Tous les événements individuels, sans exception, sont des suites des volontés générales. » Alors ce point me paraît tout à fait capital, si on tire jusqu'au bout toutes les conséquences, y compris les conséquences paradoxales de cette construction logique de la notion complète de substance individuelle, ça veut dire, certes, il n'existe dans le monde que des individus, mais l'existence des individus dans le monde est fondée, comme sur sa condition primitive, sur la résolution synthétique, unifiante, que Dieu prend à l'égard de l'ordre général. Et par conséquent, pour revenir à la formule que je citais tout à l'heure, pour en prendre le contre-pied, l'ordre du réel n'est pas une résultante de la libre concurrence des individualités. L'ordre du réel est premier et il est le fondement originaire sur lequel on peut poser l'existence d'individus qui, certes, sont chacun un monde à part, mais en fait, ils portent tous en eux le même monde qui leur est commun et public. D'où, dernier point avant de passer à l'intermède que je voudrais aborder ensuite, la complète réciprocité entre l'individu et son monde. Alors, juste un petit point en passant. Cette dépendance, cette subordination des volontés particulières de Dieu à l'égard des individus par rapport à une volonté générale qui porte sur le monde entier joue un rôle absolument fondamental dans l'argumentaire leibnizien. J'ai cité tout à l'heure la Théodicée. La Théodicée est un texte dans lequel Leibniz discute de façon très détaillée la question, donc, de l'origine du mal et de la, entre guillemets, responsabilité de Dieu dans l'origine du mal, dans la cause du mal. Et il s'agit évidemment, dans la Théodicée, d'acquitter Dieu, de dire Dieu n'est pas cause du mal. Puisqu'il fait le meilleur monde possible, mais le meilleur monde possible contient forcément du mal, puisqu'il n'y a pas de meilleur absolument. Donc nous n'avons pas à nous poser la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé Judas ?» Ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu Judas. Il se trouve, Dieu n'a pas eu de volonté primitive de créer Judas. Il s'est trouvé que, voulant créer un monde dont la notion primitive était celle qui contenait le meilleur, c'est-à-dire le maximum de réalité et le maximum d'ordre, il se trouve que cette notion primitive contenait la notion individuelle de Judas. Mais Dieu n'a pas voulu Judas. Dieu a voulu le meilleur monde, et il se trouve que le concept du meilleur monde, ou la notion primitive du meilleur monde, contient cet individu-là, ainsi que tous les autres. C'est évidemment un argument pour la justification de Dieu dans la théodicée. Mais l'autre point important à soulever pour la solidarité individu-monde, si on se place, puisqu'on a le droit chez les mythes de se placer dans la science divine, lorsque Dieu compare les différents mondes possibles et détermine lequel est le meilleur, c'est celui qui va exister. Des mondes possibles différents contiennent des individus différents. Il ne peut pas y avoir le même individu dans des mondes différents, puisque l'individu est déterminé par son monde. Il est la représentation de son monde. Donc si vous avez un monde A et un monde B, les individus de A contiennent dans leur notion tout A, et les individus de B contiennent dans leur notion tout B. Puisque ce sont deux mondes différents, les individus sont différents. Et on va voir tout de suite l'effet de ces paradoxes dans un passage qui, je crois, est assez éclairant et permet de voir peut-être de façon plus familière les conséquences de cette doctrine. C'est un épisode donc de la correspondance entre Arnauld et Leibniz, lettre d'Arnauld du 13 mai 1686, réponse de Leibniz de juin 1686. Bon, Arnauld a été choqué par cette conception de la notion complète de la substance individuelle. Au point de départ, c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé et que j'aborderai pas, au point de départ, parce que ce qui lui paraissait choquant dans cette thèse, c'est qu'il en résultait que, au fond, puisque tous les événements, par exemple, qui arrivent à Alexandre sont contenus dans sa notion, il n'y a aucune liberté ni de l'homme ni de Dieu à l'égard des événements qui sont ainsi impliqués logiquement dans la notion. Mais laissons cette discussion-là de côté et voyons plus directement l'attaque que Arnauld porte sur la conception même de la notion complète. Arnauld raisonne, on va dire pour simplifier, il raisonne en cartésien. Si je pense à moi, et je ne peux pas penser sans penser à moi, puisque le moi est impliqué dans le « je pense », l'ego est impliqué dans l'ego cogito. Si je ne puis penser à moi sans que je me considère comme une nature singulière, tellement distinguée de tout autre, existant ou possible, que je puis aussi peu concevoir divers moi que concevoir un rond qui n'est pas tous les diamètres égaux. Il ne peut pas y avoir, donc, divers moi. Mon moi ne peut pas se diviser. Mon moi ne peut pas se spécifier en plusieurs exemplaires. Et Arnauld se prend lui-même comme exemple pour montrer comment la conception leibnizienne de la notion complète, selon lui, aboutit à une contradiction. Parce qu'enfin, en considérant, mais déjà on va voir que l'amorce est mauvaise, puisque Arnauld feint de raisonner comme si Dieu avait pris une décision particulière de le créer, lui, Arnauld. Donc, quand Dieu a considéré la notion de mon moi, il a trouvé un moi, Arnauld, qui est prêtre, théologien et célibataire, mais comme il a pu trouver la notion d'un autre moi, Arnauld, qui serait devenu médecin et se serait marié. Or, il peut pas. Il se trouve que l'Arnauld existant est effectivement celui qui est théologien et célibataire. Enfin, Dieu pouvait concevoir un Arnauld possible qui aurait eu une autre destinée, qui aurait été médecin et marié. Et donc, il ne peut pas y avoir plusieurs Arnauld, plusieurs moi, mais il ne peut pas y avoir non plus une notion individuelle unique qui contiendrait les prédicats contradictoires de marié et célibataire, théologien et médecin. Et donc, c'est que cette construction de la notion individuelle complète est elle-même contradictoire. D'où il faut conclure, ce me semble, alors la phrase que je vais lire est très importante, étant impossible que je ne fusse pas toujours demeuré moi, soit que je me fusse marié ou que j'eusse vécu dans le célibat, la notion individuelle de mon moi n'a enfermé ni l'un ni l'autre de ces deux états. La notion individuelle de mon moi ne contient ni que je doive être théologien et célibataire, ni que je doive être médecin et marié, puisque dans tous les cas, que l'un ou l'autre soit arrivé, j'aurais toujours été moi, j'aurais toujours tel que je me rencontre dans la proximité immédiate de ce que je pense de moi quand je pense à moi. Je suis bien moi. Et j'aurais été le même moi, théologien ou médecin, marié ou célibataire. Et donc, je ne dois regarder comme enfermé dans la notion individuelle de moi que ce qui est tel que je ne serais plus moi s'il n'était en moi. Et donc, finalement, qu'est-ce qui reste ? Uniquement cette attestation d'égoïté que je reçois directement quand je pense à moi-même. Et Arnaud ajoute, de toute façon, ce n'est pas bien philosophé que de chercher la vérité dans les notions de Dieu. Nous savons que Dieu a l'omniscience, mais nous, précisément, nous ne pouvons pas nous mettre à sa place pour pénétrer les secrets de cette omniscience. Alors, bon, c'est très clair. Donc, Arnaud admet qu'il y a une évidence de l'individualité, de la singularité du moi, telle que cette évidence ne peut absolument pas être correctement traduite dans la construction logique de la notion complète, comme Leibniz la lui a exposée dans les lettres précédentes. Alors, réponse de Leibniz est très intéressante. Leibniz aimablement concède d'abord, oui, c'est pas mal pour juger la notion d'une substance individuelle de consulter la notion que j'ai de moi-même. Bon, ça, c'est effectivement un guide, puisque moi-même, je sais que je suis un individu unique. Mais la notion du moi, la notion individuelle du moi, contient beaucoup plus que cela. Ce n'est pas assez que je me sente une substance qui pense. Il faudrait concevoir distinctement ce qui me discerne de tous les autres esprits possibles. Mais je n'en ai qu'une expérience confuse, bien sûr, puisque ce qui me distingue de tous les autres esprits possibles contient l'infini, contient une infinité de différences. Et je ne peux jamais les expliciter, je n'en ai qu'une expérience confuse. Et donc, de même, quoique l'expérience ne me fasse pas sentir tout ce qui est enfermé dans ma notion, je puis connaître en général que tout ce qui m'appartient y est enfermé par la considération générale de la notion individuelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous n'avons qu'une considération générale de la notion individuelle. Nous savons qu'il y en a. Nous savons qu'il y en a, mais bien entendu, nous ne pouvons pas les analyser et les maîtriser dans notre science. Certes, puisque Dieu peut former et forme effectivement cette notion complète, dont on peut rendre possible raison de tous les phénomènes qui m'arrivent, elle est donc possible. Et c'est la véritable notion complète de ce que j'appelle « moi », en vertu de laquelle tous mes prédicats m'appartiennent comme à leur sujet. Donc il y a complète détermination de l'individualité dans tous les détails qui en accomplissent la notion complète. Et donc, il est bien clair jusque-là que l'individu ainsi pensé, identifié par sa notion complète, par la liaison que cette notion complète fonde entre tous ses états, mais aussi tous les états de son univers, conduit à ce que j'appellerais une conception, non pas individualiste, mais universaliste de l'individualité. Alors, Avant de passer au dernier point, je voudrais examiner, ça ménagera la transition, un nouveau paradoxe qui résulte de tout cela, paradoxe qui n'est pas, lui, formulé par Leibniz, comme certains de ceux que j'ai énumérés précédemment, mais qui est un paradoxe que je construis, moi, du point de vue de l'interprétation. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent peut nous conduire à dire, donc, chaque individu est un monde à part, mais c'est toujours le même monde. Dans chacun des individus, c'est toujours le même monde qui constitue son monde à part, puisque tous les individus sont des expressions du même monde. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui les différencie ? Chacun est un monde à part, mais pour tous, c'est le même monde. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, précisément, de perdre le principe d'individuation et d'aller, au fond, à ce moment-là, tirer la conséquence ? C'est que si la notion complète de chaque substance individuelle contient tous les états passés, présents et futurs, mais d'un univers qui est le même pour tous, est-ce qu'à ce moment-là, on ne serait pas conduit à dire, à ce moment-là, il y a une seule substance individuelle, il n'y en a pas plusieurs, puisque c'est le même monde qui est présent en toutes. Alors, il faut revenir sur les marques que Leibniz donne de cette différenciation. Nous avons vu déjà, dans l'article 13 du discours de métaphysique, donc l'expression que chaque substance individuelle répond en quelque sorte à la manière dont Dieu regarde toutes les phases du monde d'un certain endroit. C'est une métaphore spatiale qui est un peu troublante, comme si Dieu était, et d'ailleurs, un peu plus bas, il y aura cette image qui, cette fois, ne s'applique pas à Dieu, mais aux différentes substances, en tant qu'elles expriment toutes les mêmes phénomènes. Toutes les substances individuelles expriment le même monde, donc les mêmes phénomènes. Donc, elles ont, en un certain sens, le même contenu perceptif, le même contenu représentatif, puisque c'est le même univers qui est présent en toutes. Alors, Leibniz dit, mais ce qui les différencie, c'est que leurs expressions n'ont pas besoin d'être parfaitement semblables, il suffit qu'elles soient proportionnelles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il s'explique à nouveau par une métaphore, une image très, très célèbre qui revient souvent chez lui, comme plusieurs spectateurs croient voir la même chose, et s'entendent en effet, quoique chacun voit et parle selon la mesure de sa vue. Ailleurs, il prend même franchement l'image, la métaphore, des spectateurs qui tournent autour de la même ville, et chacun la voit depuis l'endroit où il se trouve. Alors c'est bien la même ville qu'il voit, mais chacun la voit selon, c'est l'expression qu'utilise Leibniz, selon son point de vue. Et donc, c'est bien toujours la même ville, mais sous des points de vue différents. C'est bien toujours le même univers, mais regardé depuis des endroits différents. Mais la métaphore est spatiale. Et ça présente un inconvénient, puisque dans tous les textes sur le principe des indiscernables, Leibniz nous dit que c'est pas la différence de localisation qui fait une distinction réelle entre des individus vraiment différents. La différence de localisation présuppose des différences internes. Et maintenant, on nous dit que la différence interne provient d'une différence de point de vue. Et le point de vue, si on prend à la lettre la métaphore spatiale, ça revient à dire que ça se différencie par la localisation. Les spectateurs qui tournent autour de la ville et qui la voient depuis des routes différentes. Bon. Alors, de façon plus abstraite, plus métaphysique, à l'article 15 du discours de métaphysique, Leibniz énonce une substance qui est d'une étendue infinie en tant qu'elle exprime tout, devient limitée par la manière de son expression plus ou moins parfaite. Bon, commentaire sur cette phrase. En un sens, les individus sont donc identiques en extension, puisque toutes les substances individuelles sont infinies. Elles expriment l'infinité du monde dans leur notion. La différence serait dans la manière. La différence consisterait dans la limitation, et la limitation dans la manière. Ce serait donc une différence modale ou qualitative. On peut le comprendre, et on verra tout à l'heure comment ce sera explicité peut-être plus clairement dans la monadologie. On peut le comprendre, effectivement, par la conception que Leibniz développe aussi, je ne rentre pas dans les détails, de ce que l'expression, mais au terme auquel on peut substituer sans faute, ceux de représentation ou de perception, pour chaque substance individuelle, comporte des gradations de l'obscur au clair, du confus ou distinct. C'est-à-dire qu'il y a des degrés d'explicitation, d'élucidation du contenu perceptif, et ces degrés peuvent donc varier d'un sujet à l'autre. Et donc à ce moment-là, la métaphore spatiale du point de vue se transpose en caractéristiques internes de la substance individuelle. Chacune, elle voit tout le même monde, mais selon une disposition du tableau interne qui est différente. Je proposerais, non pas comme explication, mais plutôt comme image, pour faciliter une intuition de ce qui est en question ici. On pourrait dire que le contenu perceptif de chaque des substances individuelles sont comme autant de tableaux ayant la même extension, et représentant exactement la même scène, les mêmes personnages dans le même paysage, mais où les tableaux se différencieraient tous les uns des autres par des nuances insensibles, par le fait que tantôt telle zone du tableau serait en couleur plus claire, telle autre en couleur plus sombre, tout en représentant la même chose. Tantôt certaines auraient un tracé du dessin plus précis, plus détaillé, ou au contraire un tracé du dessin plus flou, plus confus. Donc c'est, on pourrait dire, ce sont des exemplaires du même tableau qui représentent la même scène dans le même cadre, même dimension du cadre, donc même extension, mais qui se différencient qualitativement les uns des autres par l'intensité plus ou moins grande des couleurs et la précision plus ou moins grande du dessin. Et là, encore une fois, ça c'est pas Leibniz, c'est moi qui invente cette figuration pour essayer de rendre la chose intuitive, ça renvoie au contenu interne des expressions ou des perceptions. Et on peut peut-être, à partir de là, comprendre comment donc des substances individuelles unies dans le même univers, connectées les unes aux autres dans le même univers, peuvent se différencier sans que cela porte atteinte à leur co-appartenance à ce que Leibniz appelle le même ordre général. Alors pour terminer, je vais passer à quelques considérations sur le deuxième groupe, si vous voulez, à la fois thématique, mais aussi à certains égards doctrinal. On peut dire que le discours de métaphysique en 1685, début 1686, a représenté pour Leibniz une première synthèse métaphysique, centrée donc sur la notion de substance individuelle en tant qu'elle permet de répondre à la question de savoir si et comment les créatures agissent dans le cadre de controverses que j'ai rappelées tout à l'heure. On peut dire que, à la fin de sa vie, enfin, 2 ans avant la fin de sa vie, Leibniz, dans le texte auquel on donne le titre de monadologie, et dans les textes connexes et de la même époque, a fourni ce qu'on peut considérer comme une deuxième synthèse métaphysique, et dont cette fois, l'opérateur n'est plus la notion de substance individuelle, mais cette fameuse notion étroitement associée dans pour tout le monde, au nom de Leibniz, la monade. Au XVIIIe siècle, Leibniz était présenté partout comme l'auteur d'un système des monades, et nous avons toujours tendance à étroitement associer son nom à celui de ce concept. Leibniz n'a pas toujours utilisé ce concept, c'est seulement en 1695 que cette dénomination s'introduit, et précisément pour marquer le résultat d'un changement d'approche de la question de la réalité ultime, donc c'est de la substance. La monade n'est jamais qualifiée par Leibniz d'individuel, même si on verra que, d'une certaine manière, les monades sont toutes individualisées puisqu'elles sont toutes différentes les unes des autres, mais jamais elle n'est caractérisée par l'individualité. Jamais Leibniz ne dit monade individuelle, la monade est une substance simple. Simple, ça veut dire, dit Leibniz, sans partie, comme une unité réelle proprement indivisible, parce que seul est véritablement ce qui est un et indivisible. Quelque chose qu'on peut diviser, tire son existence des composants en lesquels on la divise, et donc ce qui existe véritablement, ce sont les choses simples. Le reste, ce sont des composés ou des agrégats dont l'existence résulte des simples. Ce qui existe fondamentalement et primitivement, ce sont les substances simples. Nominalement, on va les appeler monades, puisque monas est un mot grec qui signifie unité. On a donc une espèce de simplification ontologique à apporter tout à fait universelle. Tout est ou simple ou composé, ou monade, ou, comme dit Leibniz, agrégat. Les composés ou les agrégats sont des corps. Ce qui se manifeste à nous phénoménalement, dans la perception, comme des corps. A contrario, les monades, précisément parce qu'elles sont simples et indivisibles, n'ont aucune détermination spatiale. Elles sont inétendues, puisque si elles étaient étendues, elles seraient divisibles. Étant inétendues, elles n'ont pas de figure, et elles n'ont pas non plus de, proprement, en elles-mêmes, on va y revenir dans un instant, de localisation. Elles ne peuvent donc être que des entités non corporelles, non physiques, et donc de nature mentale. Pourquoi on a parlé à propos de cette construction de spiritualisation du réel. Tout ce qui est proprement réel, les substances simples, les unités, les monades, est, alors, en donnant à spirituel une extension très grande sur laquelle je reviendrai, et le terme n'est pas forcément bien choisi, en termes plus contemporains, on pourrait dire mental, mentalisation du réel, les éléments ultimes de la réalité sont donc de nature mentale ou spirituelle. Mais alors comment, puisqu'il n'y a ni étendue, ni figure, ni mouvement, ni localisation, comment les monades se distinguent-elles? Car il faut bien, dit Leibniz, qu'elles soient toutes différentes, puisque il n'existe jamais deux êtres qui soit entièrement semblable. Le principe des indiscernables s'applique évidemment aux monades. Par quoi peuvent-elles se différencier? Elles se différencient, dit Leibniz, par des caractères intrinsèques, des caractères internes, il dit aussi des actions internes. Quelles sont ces actions? Puisque ce n'est pas un corps, ces actions sont, par analogie avec ce que nous trouvons en nous-mêmes, dans l'expérience que nous avons de nous-mêmes comme sujet pensant, ces actions sont des enchaînements de perception. La perception étant définie de façon très générale comme la représentation du multiple dans l'unité, la projection ou la concentration du multiple dans l'unité. Et avec aussi cette observation très importante, que le concept de perception ainsi introduit pour différencier entre elles les monades est un concept beaucoup plus large que celui de conscience. Il faut, dit Leibniz, distinguer entre les perceptions que nous avons et que toutes les monades ont, et les perceptions dont on s'aperçoit, dont nous avons conscience, et c'est Leibniz qui a introduit ici le terme que reprendra Kant de « apperception » pour désigner les perceptions conscientes qui se distinguent sur l'immense fond des perceptions dont les monades ne s'aperçoivent pas, mais qui sont pourtant présentes entre elles. D'où résulte, paragraphe 56 et 57 de la monadologie, d'où résulte que ces monades, étant bien entendu elles aussi posées dans l'existence par Dieu, elles émanent en quelque sorte de la liaison et de l'ordre que Dieu introduit dans la création, d'où article 56 de la monadologie, on va retrouver des choses qui étaient déjà valables, évidemment, de la substance individuelle, cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à chacune et de chacune à toutes les autres, fait que chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres et qu'elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l'univers, et comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre, et est comme multiplié perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul, selon les différents points de vue de chaque monade. Bon, et l'article 60, exactement dans des termes tout à fait semblables à ceux qu'on avait rencontrés à l'article 13 du discours de métaphysique, dit que Dieu, en réglant le tout, a eu égard à chaque partie, et particulièrement à chaque monade, dont la nature étant représentative, rien ne la serait bornée à ne représenter qu'une partie des choses, quoiqu'il est vrai que cette représentation n'est que confuse dans le détail de tout l'univers et ne peut être distincte que dans une petite partie des choses. Ce n'est pas dans l'objet, mais dans la modification de la connaissance de l'objet que les monades sont bornées, elles vont toutes confusément à l'infini, au tout, elles sont toutes limitées et distinguées par les degrés des perceptions distinctes. Donc on retrouve exactement des choses qu'on a déjà rencontrées. Et indiscutablement, il y a, à un certain niveau d'analyse, une structure commune entre les monades de la monadologie et les substances individuelles du discours de métaphysique. Seulement, il y a une différence, et une différence qui n'est pas négligeable. Cette différence, et qui tient au contexte et à la nature des problèmes rencontrés dans ce contexte. C'est ainsi que disparaissent, du point de vue de l'analyse du texte et de son style, disparaissent complètement de la monadologie et des textes connexes, on pourrait faire la même démonstration avec n'importe lequel, disparaissent les mentions, les citations de des agents, des sujets auteurs de leur histoire, en quelque sorte, qui étaient omniprésents dans le discours métaphysique et les textes de la même époque. Plus question d'Alexandre, de César, d'Adam, de Pierre, de Judas, d'Arnaud ou de Leibniz. Tous ces personnages disparaissent. Il n'y a plus de personnages. Il n'y a plus de personnes. Ou plus exactement, le domaine d'application qui était dans le discours métaphysique celui par excellence de la notion de substance individuelle, donc les agents historiques de l'histoire profane et sacrée, ces exemplifications ne deviennent maintenant dans la structure de la monadologie qu'un tout petit canton d'une immense chaîne des êtres, tous ces sujets qui étaient avant au centre de la discussion sont en quelque sorte immergés dans un ensemble total où ils ne représentent qu'un degré d'une immense structure hiérarchique où certes toutes les monades sont différentes. En ce sens-là, même si Leibniz ne parle jamais d'individuation de la monade, du moment que le principe des indiscernables s'applique à elle, elles sont toutes uniques. Et elles sont uniques par la manière dont elles sont limitées et distinguées par les degrés des perceptions distinctes. Et cette hiérarchie part, c'est pourquoi la notion de monade a pour Leibniz la signification d'un instrument de pensée, l'unité de composition de la réalité. C'est un opérateur universel du point de vue de son domaine ontologique. Ça va depuis donc des monades dont le degré de perception est totalement rudimentaire, totalement obscur. Ils sont dans une espèce de nuit profonde et que Leibniz appelle des monades endormies. Et par gradation continue, on passe ensuite, bon, je donne très rapidement l'articulation de cette hiérarchie, on passe ensuite à des monades qui sont capables de sentiments par lesquels quelque chose prend du relief dans leur perception, capables aussi d'une forme rudimentaire de mémoire mécanique ou empirique. Là, on a affaire globalement à ce que Leibniz appelle les animaux. Et puis, il y a un certain seuil où on passe à des monades, substances simples, qui sont capables, donc, de perceptions conscientes, de faire parvenir leur perception à un degré de conscience, avec cela capables de réflexion, de se reconnaître comme moi par la réflexion, et se reconnaissant comme moi par la réflexion, de parvenir à des notions universelles, à des concepts, à des raisonnements, aux sciences démonstratives, et donc aussi de démontrer l'existence de Dieu, et de connaître Dieu, et de devenir enfin des personnes morales, qui n'appartiennent pas simplement comme les monades inférieures au plan de la nature, mais, selon la terminologie de Leibniz, entrent en société avec Dieu, dans la cité, deviennent des membres de la cité de Dieu, ou les sujets de la plus parfaite des républiques, gouvernées par le plus parfait des monarques. Bon, alors, ça c'est la hiérarchie, donc, donc là on trouve, évidemment, l'humanité se trouve à ce degré, des monades dotées de réflexion, de connaissances, de sciences, de raison, connaissance de Dieu, membre de la cité de Dieu, mais Leibniz admet, ça fait partie des curiosités de la doctrine, qu'il y a des monades dont les capacités cognitives et rationnelles sont beaucoup plus puissantes que celles des hommes tels que nous sommes aujourd'hui, qu'il appelle des génies, et qui vont jusqu'à des développements de nous inconnus, des capacités intellectuelles, démonstratives, rationnelles, etc. À ceci près, et le sommet de la hiérarchie, évidemment, c'est Dieu. Dieu en qui l'omniscience fait que tout est distinctement connu, et où il n'y a plus rien d'obscur, plus rien de confus, mais tout dans le moindre détail des choses est connu de façon parfaitement distincte. À ceci près, car on pourrait là être tenté de dire, ben alors Dieu est la première monade, la suprême monade. C'est un effet d'écriture très curieux. Leibniz s'est toujours interdit de dire que Dieu était une monade. Il y a un signe textuel, quand on regarde les éditions critiques des textes de Leibniz à partir des manuscrits, quand il a écrit la monadologie, à un moment, il avait commencé à écrire une phrase « Dieu est la monade primi ». Bon, alors, il est primitive. Primi. Il s'est arrêté, il a raturé, et il a écrit « Dieu est la substance simple primitive ». Et donc, Dieu n'est pas une monade. Bon, j'ai bien qu'il y a un truc qui traîne depuis Hegel, c'est que chez Leibniz, Dieu est monas monadum, la monade des monades, mais jamais Leibniz n'a écrit cette expression, ou Hegel l'a inventée, ou Hegel l'a trouvée ailleurs, jamais Leibniz ne l'a écrit. Et j'ai presque envie, pour introduire le dernier petit développement que je voudrais faire rapidement, de l'amorcer par la question, mais justement, pourquoi Dieu n'est-il pas une monade ? C'est une substance simple, mais cette substance simple-là, Leibniz refuse manifestement de l'appeler une monade. Alors, Bon, évidemment, on pourrait faire une réponse purement nominale, qui consisterait à dire, le terme de monade est réservé au plan du créé. Sont monades les substances simples qui sont créées par Dieu, et Dieu qui les crée n'est pas lui-même une monade, puisque les monades, c'est ce qui sont créées. Mais je crois qu'on peut trouver une réponse plus, dans l'analyse du texte, une réponse plus précise, plus fine et plus intéressante, justement dans la ligne de cet exposé qui est consacrée à la notion d'individualité. C'est le lien qui est établi dans la monadologie entre la position des monades comme substance simple et le corps, leur corps, dans ce que j'appellerais pas, parce que l'emploi du terme biologique serait un anachronisme du point de vue du vocabulaire, donc j'appellerais pas ça une individualité biologique, mais, plus proche du vocabulaire de Leibniz lui-même, une individualité vivante ou une individualité organique. Notion d'individualité qui vient, même si encore une fois, j'emploie des termes qui sont des termes de commentaires. Leibniz ne dit pas individu, il dit vivant, il ne dit pas individualité vivante. Mais chaque vivant est un individu. Et je voudrais essayer de donner quelques indications sur la manière dont précisément Leibniz, et ici il amorce quelque chose qui trouvera des développements ultérieurs extrêmement importants au XVIIIe et au XIXe siècle, et notamment jusqu'à Kant et dans la deuxième partie de la critique de la faculté de juger, sur l'organisme. Le point de départ consiste à s'interroger sur, comme le fait Leibniz d'ailleurs, à l'articulation des articles 60 à 61 de la monadologie, sur le rapport entre les simples et les composés, entre les monades et les corps. Jusqu'à présent, on a dit, tout est ou simple ou composé, tout est monade ou agrégat, et les composés ou les agrégats, c'est ce dont nous avons la familiarité dans l'expérience, ce que nous appelons les corps, les réalités physiques. Mais maintenant, il faut se poser la question du rapport entre les deux. Pas simplement poser ces deux niveaux de réalité, où ce qui est fondamental et véritablement réel, c'est les substances simples, mais comment s'articulent les deux niveaux? Alors, il y a une phrase tout à fait remarquable au début de l'article 61 de la monadologie. Les composés symbolisent en cela avec les simples. Les composés symbolisent avec les simples. Emploi peut-être un peu étrange pour nous du verbe symboliser construit avec la préposition avec, mais c'est une très belle formule. Et en quoi les composés symbolisent-ils avec les simples? À l'article 60, Leibniz vient de dire que toutes les monades sont unies parce qu'elles ont toutes le même objet, le même univers, où elles se distinguent simplement par la modification de la connaissance de l'objet. Dieu ayant eu égard à toutes et par là même les ayant toutes unies, de sorte que chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres. Chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres substances simples dans cette unité. En quoi les composés symbolisent avec les simples? Là, Leibniz passe à un autre... On considère à ce moment-là le monde phénoménal, le monde observable, et une thèse fondamentale du point de vue physique pour Leibniz, c'est que dans la nature, tout est plein. Il y a des corps partout, il y a de la matière partout. Tout est plein. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de lacune, il n'y a pas d'interstice. Tout est plein. Et donc, dans le plein, n'importe quel ébranlement qui se produit à un point de l'univers se transmet à tous les autres. Dans le plein, il y a une propagation sur tous les corps du moindre mouvement qui ébranle quelque part une partie de l'univers physique. De sorte que chaque corps est affecté non seulement par ceux qui le touchent et se ressent en quelque façon de tout ce qui leur arrive, mais aussi par leurs moyens se ressent de ceux qui touchent les premiers dont il est touché immédiatement, il s'ensuit que cette communication va à quelque distance que ce soit, et par conséquent tout corps se ressent de tout ce qui se fait dans l'univers. Tout corps se ressent de tout ce qui se fait dans l'univers. Et donc, il y a sur le plan donc, du composé des corps, une liaison universelle qui fait que chaque corps ressent tout ce qui se passe dans l'univers, équivalente, qui symbolise avec la manière dont toutes les monades se répondent en exprimant le même univers. Ça, c'est déjà un premier. Donc, c'est par là qu'on va rentrer dans une pensée qui essaye de saisir non plus la distinction de niveau entre les simples et les composés, mais la correspondance entre ces deux niveaux. Donc, l'articulation du métaphysique sur le physique, l'articulation de ce qui est véritablement réel, la substance, sur le monde des phénomènes qui sont toujours liés à la composition. Et c'est là où cette symbolisation, dont on vient de voir le principe, donc correspondance entre le plein physique du monde et la liaison harmonique de toutes les substances simples les unes avec les autres. Cette symbolisation va en quelque sorte se concentrer en montrant que il y a parmi, pour une monade déterminée, parmi tous les corps auxquels sa perception lui donne accès dans le monde des phénomènes, il y a un corps qui se distingue des autres, ce corps qui lui appartient d'une manière particulière, dit Leibniz. Car ici va s'introduire l'idée d'une médiation, c'est que certes chaque monade créée représente tout l'univers, mais elle le représente plus distinctement par rapport précisément aux effets que tout l'univers produit sur un certain corps, celui qui lui est plus particulièrement affecté, celui qui lui appartient d'une manière particulière. Dans un texte écrit en même temps que la monadologie, dans les principes de la nature et de la grâce, à l'article 3, Leibniz utilise là, il est premier à le faire, le terme de corps propre. Chaque monade a un corps propre. Le corps propre est précisément celui qui assure en quelque sorte la médiation entre l'expression par chaque substance simple de l'univers tout entier et les modalités particulières selon lesquelles cette expression se réalise en elle, parce que elle perçoit les choses au travers des effets qu'elles font sur son corps. Et c'est un point extrêmement, à mon avis, extrêmement intéressant dans cette dernière synthèse métaphysique de Leibniz. La monade avec ce corps, c'est ce qu'on peut appeler un vivant. La monade prise avec le corps qui lui appartient plus particulièrement, ce qu'il appelle dans les principes de la nature et de la grâce son corps propre, ça s'appelle un vivant. Et en général, le vivant avec l'âme, ça fait un animal. Ça fait un animal. Et l'homme, si raisonnable soit-il, en tant qu'esprit, est aussi un animal, tout en étant capable d'opérations spirituelles. Ça, c'est un point, et c'est un point d'autant plus important que c'est une thèse constante dans ce dernier état de la philosophie de Leibniz qui s'est développée depuis les années 1690, c'est que toute monade est toujours unie à un corps. Il n'y a pas de séparabilité entre une monade, précisément parce qu'elle est une monade créée, et son corps. Et ceci, on va voir, d'une pensée par Leibniz d'une manière absolument radicale. Alors, quelques points pour essayer d'aller vite. Le corps du vivant doit lui-même, puisqu'il reçoit, il concentre en lui tout ce qui se fait dans l'univers. Il a donc lui aussi en lui-même un principe de composition qui doit refléter l'infinité de l'univers et son ordre. un tel corps est ce que Leibniz appelle, en reprenant une terminologie très ancienne, est ce qu'il appelle un corps organique. Dire dans un premier temps qu'un corps est organique, au sens plus Aristote du terme, c'est dire que ce corps est composé d'organes, c'est-à-dire d'instruments corporels au travers desquels l'âme réalise telle ou telle de ses fonctions vitales, sensibles, motrices, et toutes les opérations par lesquelles le corps s'entretient en vie, la génération, etc. Bon. Il y a des organes pour ça. Un corps doté d'organes, c'est un corps organique. Mais Leibniz, alors ça c'est de la terminologie qui n'est pas propre à Leibniz, ce qui est propre à Leibniz, c'est de dire que les corps organiques sont des machines de la nature. Et il donne le critère de ce qu'est une machine de la nature, à la différence d'une machine fabriquée par l'industrie humaine, par l'art humain. Une machine fabriquée par l'art humain se décompose en pièces, en organes, qui à leur tour ne sont plus des machines. Les montées à moteur de voiture, les morceaux que vous obtenez, dès lors qu'ils sont dissociés, c'est des morceaux de matière, c'est des bouts de fonte, de ce que vous voudrez, mais c'est plus une machine, ça fonctionne plus. La machine de la nature est machine à l'infini. Chacune de ces parties contient à nouveau des organes. Les corps vivants sont des machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. Et précisément, il faut qu'elles le soient pour que cette machine puisse en elle-même reproduire en quelque sorte l'infinité du monde dont elle reçoit tous les ébranlements et tous les échos. Et c'est précisément en cela que l'infinité de composition du corps organique ou de la machine de la nature répond à l'infinité que la monade contient dans sa constitution interne en tant qu'elle représente tout l'univers. Et donc, ce que je propose d'appeler l'individualité vivante ou l'individualité organique, elle est fondée sur cette correspondance entre l'infinité perceptive de la monade et l'infinité organique de la machine de la nature en tant que machine à l'infini. Avec cependant, alors pour terminer quelques points, avec cependant que il y a une différence. Ce qui fait l'identité du corps de l'animal, c'est uniquement l'identité et donc l'individualité de la monade qui en est le principe d'organisation, qui est au sommet de son principe d'organisation, qui en est le centre. Car considéré du point de vue physique, le corps d'un animal, de tout animal, du fait des échanges avec les corps environnants, dans toutes les opérations vitales, ne cesse de se transformer. Il est, dans un autre texte, Leibniz le compare à la légende du bateau de Thésée, que les Athéniens ne cessaient de réparer en remplaçant un morceau par un autre morceau, de sorte que c'était toujours le même bateau, mais que c'était jamais les mêmes composants matériels qui constituaient le corps du bateau. Donc le corps des animaux est comme un fleuve, dit Leibniz, ou comme le bateau de Thésée, dont la matière se renouvelle sans cesse. Mais il y a néanmoins toujours correspondance entre monade et corps organique, de sorte que par ce rapport à la monade dont il est le corps propre, le corps organique reçoit en quelque sorte, quel que soit le changement de ses composants, une sorte d'individualité déléguée. Parce que quel que soit le changement des matériaux qui s'intègrent dans les opérations vitales du corps, Leibniz dit, c'est dans un autre texte qu'il emploie cette belle expression, il y a toujours le même fond de la structure. C'est lui-même qui emploie le terme, fond de la structure, le même fond de la structure. Et ceci avec conséquence paradoxale, mais qui illustre très bien le mode de pensée de Leibniz à son époque. C'est que une machine qui est machine à l'infini, en un certain sens, elle est indestructible. Une machine produite par l'industrie humaine, on peut la détruire, si. Si on décompose les pièces d'un moteur de voiture, bah la machine est détruite. Il n'y a plus de machine. Il y a que des bouts de ferraille qui traînent sur la table. Mais la machine de la nature étant machine à l'infini, il n'y a aucun avatar qui puisse ni la faire naître de rien, ni l'anéantir. Une machine de la nature ne naît jamais de rien, elle naît toujours, un corps organique naît toujours d'un corps organique préexistant. Alors, là, Leibniz, non, il s'appuie toujours sur les observations de son époque. Les observations faites grâce au microscope, découverte des spermatozoïdes, accessoirement aussi de l'ovule féminin, mais la théorie dominante était quand même celle du principe de génération mâle, mais découverte des spermatozoïdes, donc toute naissance d'un corps organique provient d'un corps organique préexistant, par une sorte de, par une transformation, par une métamorphose, et ça Leibniz le justifie comme une extrapolation des données de la science de son époque, les découvertes de Leeuwenhoek, de Swammerdam, etc., qu'il connaissait très bien. Et là où intervient l'invention métaphysique de Leibniz, c'est qu'il dit « mais c'est la même chose de l'autre côté ». Il n'y a pas de naissance à la rigueur, puisque la naissance n'est que la transformation d'un corps organique dans un autre état du corps organique, et il n'y a pas de mort non plus, la mort n'étant qu'une autre transformation, certes dont éventuellement le résultat devient invisible à nos yeux, mais il y a toujours, mais c'est une métamorphose dans un autre état d'un corps organique, de sorte que à l'impérissabilité des monades, puisque les monades ne naissent pas et sont indestructibles, puisqu'elles sont simples, donc elles ne peuvent pas naître par composition de parties, ni disparaître par décomposition, mais le corps organique, bien qu'il soit quelque chose de composé, dont les composants ne cessent de changer, le corps organique demeure toujours là, aussi indestructible que les monades elles-mêmes. Et c'est ce qui est une conséquence de ce principe de liaison. Donc, alors, c'est ce qui fait, donc on se trouve maintenant dans un monde complètement différent de celui qui était décrit dans le discours métaphysique. Un monde, certes, où tout est individué, mais où, au fond, le thème premier de l'investigation n'est pas la mise en évidence de l'individualité, mais plutôt celui de la richesse des formes vivantes et des multiplicités organiques. Je cite paragraphe 66 de la monadologie, par où l'on voit qu'il y a un monde de créatures, de vivants, d'animaux, d'entéléchies, d'âmes, dans la moindre partie de la matière. Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons, mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin et un tel étang. Donc il s'agit plus maintenant de résoudre les controverses religieuses en statuant qu'est-ce qui fait l'individuation des agents historiques de l'histoire profane ou sacrée. Il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que l'unité de cet univers dans cette sorte de pullulement des individualités organiques, pullulement qui lui-même ne se conçoit que par rapport au fondement unitaire de l'ordre. Voilà. Merci.
On peut prendre quelques questions, si peut-être sur tout ton développement, enfin sur la fin, tu pourrais peut-être ramasser l'argument pour expliquer pourquoi finalement Dieu n'est pas une monade. Tout ton développement de la fin.
Oui, mais c'est vrai.
On a un peu perdu. Très juste. On a un peu perdu.
Dieu n'est pas une monade parce que Dieu n'a pas de corps organique. Il n'est pas uni à un corps organique. Voilà. C'est une omission qu'il faut compléter. Bien sûr, ça arrive. Non seulement, bon, donc du point de vue terminologique, Leibniz manifestement restreint l'emploi du terme monade au plan du créé. Mais le plan du créé lui-même, à partir du moment où il s'ordonne selon cette structure de correspondance entre le simple et le composé, qui se focalise dans ce lien de chaque monade avec son corps organique, il va de soi que ça ne peut pas concerner Dieu.
Oui, Jean-Maurice.
Bonjour Michel. Oui, je voulais simplement poser une petite question, là, en l'occurrence concernant le rapport de Dieu qui n'est pas une monade, avec les mondes, son monde et les mondes possibles. Il semblerait tout de même qu'il reste un certain écueil à la toute-puissance de Dieu dans la mesure même où la possibilité où l'impossibilité de certains mondes semble bien révéler qu'une combinatoire existerait en Dieu, mais dans son esprit même ou dans les choses, qui l'empêcherait de réaliser un monde où, malgré tout, la rédemption de Judas ne peut se faire comme pour le reste de l'humanité, parce que là, son entité, la monade, a aussi un destin moral, en l'occurrence, et c'est pour ça que l'histoire est dans la monade et son destin historique. Mais il faut, pour rattraper tout ça, ce que tu sais très bien pour l'avoir écrit, une apocatastase. Alors comment s'en tirer, puisqu'il y a, une résistance, en somme, du matériau dans lequel il construit, si on appelle matériau, les monades. Voilà.
Les ministres récuseraient la formule selon laquelle la toute-puissance de Dieu est limitée, dans la mesure où la thèse constante de Leibniz, c'est l'exclusion de toute doctrine de la puissance absolue qui ne serait pas préalablement éclairée par ce qu'il appelle la sagesse. Donc la puissance de Dieu est mesurée par la sagesse. C'est pourquoi Dieu ne peut rien faire hors d'ordre. Et Dieu ne peut pas ne pas vouloir le meilleur, et on peut dire effectivement, le meilleur, c'est son entendement qui le lui présente comme étant la combinaison qui réalise le maximum de réalité. Et il y a une phrase dans un texte très forte, « Dieu n'est pas créateur de son propre entendement ». Dieu n'est pas créateur de son propre entendement. Donc, bon, Belaval appelait ça la logique incréée, il y a une logique incréée, et cette logique incréée détermine les possibilités de la création. Et c'est l'entendement, là-dessus Leibniz n'a jamais varié, c'est l'entendement qui détermine la volonté, et en lui présentant son objet. Mais Leibniz récuserait la formule selon laquelle ça limite la toute-puissance, parce que pour lui, une toute-puissance qui ne serait pas réglée par la sagesse serait un pouvoir absurde et tyrannique. Il le compare, d'ailleurs, à de nombreux textes, il compare ça à la figure de Thrasymaque, dans la République de Platon. Dieu n'est pas Thrasymaque. Bon, Dieu, c'est toujours la sagesse qui règle et qui définit justement le degré de puissance. Alors après, bon, effectivement, Dieu n'a pas voulu Judas. Il a voulu le monde dans lequel il y a Judas. Après, l'autre problème, c'est un problème très difficile. Très très difficile et sur lequel, je crois, Leibniz n'a jamais vraiment dit jusqu'au bout ce qu'il pensait. Au travers de certaines allusions, enfin plus que des allusions, considérations dispersées dans la Théodicée et dans d'autres textes, on peut penser que Leibniz répugnait à accepter quelque chose comme une damnation éternelle et sans rédemption finale. Mais il ne l'a jamais dit clairement. Il a manifesté de la sympathie pour des gens qui professaient de telles doctrines. Et il y a un très beau texte de Lessing sur les peines éternelles qui reprend ce sujet de discussion, mais en un certain sens on peut dire que l'idée de peines éternelles et d'une damnation éternelle est d'une certaine manière incompatible avec la structure générale de l'argumentaire de la Théodicée. Il faut qu'à la fin tout s'y retrouve, mais en même temps ça, on sent bien qu'il ne veut pas, ça fait partie des points sur lesquels, effectivement, ni dans les textes publiés, ni dans les correspondances, il ne veut vraiment prendre de risques.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Bon, ben, on va s'arrêter là, puisque...
On avait dit 10 heures.
On avait dit 10 heures.